Et je vais faire un message avec une histoire qui n'a rien à voir. Enfin, presque. Je voulais revenir sur un roi de l'Ancien Testament. Bon, j'ai 10 minutes. On va faire. Je vais peut-être dépasser juste de 5-10 minutes si ça vous va, même si vous avez faim. On est 1000 ans avant Jésus. Salomon règne sur le royaume d'Israël. Mais à sa mort, ses successeurs vont se diviser en deux camps, nord et sud. Donc nord, c'est qui? Israël, et sud, Juda. Voilà. Et 200 ans après la mort de Salomon, on a Israël, Juda, et puis un troisième royaume, l'Empire assyrien, qui lui règne. Alors vous voyez là, on se dit, c'est impressionnant, il règne sur tout, et puis là, on a une autre perspective, c'est qu'on a l'Empire assyrien et qu'on a d'autres petits royaumes ici. Et on a ce gros empire qui règne, là, l'Assyrie, et qui règne sur tout le croissant fertile. Et ils vont vers nos deux royaumes, et sur la route, ils pulvérisent les Araméens. Ils sont effacés. Et puis, ils foncent vers nos deux frères. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ils sont arrêtés sur leur route parce que sur le front de l'Est, il y a les Mèdes qui les attaquent. Donc, ils font demi-tour. Le GPS dit, allez, on rentre. On va pas faire deux fronts à la fois. Donc, ils reviennent sur le front de l'Est. Et Israël et Juda se disent, on va se préparer à la guerre parce que là, ça risque de mal finir. Et donc, ils interprètent ce temps comme un temps donné par Dieu pour se préparer à la guerre. Et au nord, on récupère les territoires jusqu'à l'Euphrate et jusqu'à la côte. Donc, en fait, on revient sur cette carte-là. Donc, on revient jusqu'à l'Euphrate et la côte. Et au sud, on redescend jusqu'en Égypte. C'est-à-dire que, mis bout à bout, on retrouve le royaume sous Salomon, la grandeur du royaume d'Israël sous Salomon. Et on a un temps de paix, donc c'est bien. Ils font chacun leur bataille de leur côté, ils récupèrent tout, c'est super, tout va bien. C'est un temps de paix. Les Assyriens regardent ça de loin et se disent, Ouh là là, on a un ennemi qui monte, on jette un œil dessus. Cela dit, on sait que les deux frères, nord et sud, sont plutôt fragiles. Leur amitié, leur relation est fragile. Et alors que c'est un temps de paix, il y a les rancœurs qui reviennent du passé. C'est dommage. Alors comment ça se passe? C'est très simple. C'est le roi du sud, Amatsia, qui envoie au roi du nord, Joas. Et il lui dit à peu près ça. Il lui dit, viens te battre si t'es un homme. Ça peut pas être plus clair. Alors Joas, il regarde ses mails, il voit le message, et il lui répond, un message très audacieux, très inspiré. Il lui dit, ne fais pas ça, je vais te démolir. Alors bon, c'est pas le temps, quoi. Je veux dire, il y a des Assyriens qui grossissent là, et puis ils feront la guerre. La guerre éclate, et puis c'est le nord qui gagne. Joas descend sur Jérusalem pour répondre à la provocation du sud, et il va humilier Juda en laissant une brèche dans les murailles de Jérusalem, une brèche de 400 coudées, c'est-à-dire d'ici au Super-U. Et c'est une humiliation parce que comme il y a une brèche dans les murailles, tous les ennemis autour se disent, on y va, on va attaquer. Et pour finir cette histoire, eh ben les sudistes, ils vont mettre un complot en place et ils vont tuer leur roi, parce qu'ils n'étaient pas contents de cette humiliation. Et sur le trône, ils vont mettre son fils, Ouzia, ou Ozias, à 16 ans, qui lui va être intronisé. Donc voilà comment ça se passe. Et Ouzia va être traumatisé par cette histoire, il va être traumatisé par cette brèche dans les murailles, et il va garder ça tout, pendant tout son ministère. Ça va être le fondement de son œuvre, à tel point qu'il va remettre des fondations très solides à Jérusalem, et même quand les Assyriens viendront, ils passeront pas. Il était tellement obsédé par ça que finalement, ce sera un mal pour un bien. Alors Ouzia reprend du coup les terres qu'on lui avait reprises entre-temps, des belles conquêtes au sud, un peu plus au nord et à l'ouest. Et puis, il a une particularité, comme j'ai dit, c'est la sécurité. Et il va faire ceci. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, il les fortifia. Et il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Donc voilà, on engage un ingénieur et sur les tours, on va mettre des systèmes comme ça, comme l'ennemi, non seulement il est ralenti, mais en plus, poum, il est attaqué. Et la Bible dit que sa renommée à Ozias s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu, ça c'est Dieu, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et donc tout le monde entend parler de cet Ozias, on se dit, ah oui, c'est le mec qui a mis des machines sur les tours, c'est super. En même temps, on ne va pas l'embêter. Donc il gagne ses batailles et il a l'approbation de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours un sigle d'approbation à ce que Dieu l'aime ou pas. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, ou il fit ce qui est mal. C'est bien ou mal avec Dieu. Donc là, à ce moment-là, pour lui, il y a écrit « il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel ». Donc ça veut dire que c'était un bon roi. Mais, il faut bien faire une histoire, ça va se corser. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, en général c'est le vocabulaire pour dire qu'ils sont armés, qui s'opposèrent au roi Ozias. Alors là, il fait brûler des parfums, il n'a pas le droit, il fait des sacrifices à Dieu. Et c'est réservé au prêtre. Alors le prêtre, il lui dit, il lui explique la situation. Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Donc, il ne faut pas qu'il fasse, hein, sinon déjà les prêtres ils vont finir au Pôle emploi. Mais en plus, c'est une violation majeure de la loi de Dieu. Donc il dit, mêle-toi de tes affaires. Et on se dit, bon, est-ce qu'il va se reprendre? C'est quand même un bon roi jusqu'à présent. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Donc avec un encensoir au bout d'une chaîne, là. On peut mettre un coup, hein, c'est ça que ça veut dire. Et puis, ce qui est grave, c'est que là, ils sont pas, comment dire, ils peuvent pas commencer une bataille ici, ils peuvent pas commencer à se battre ici. Ils sont pas dans une boîte de nuit de la Côte d'Azur là. Ils sont pas. Là, ils sont dans le lieu saint. Donc là, il faut rester sérieux, il faut rester dans le respect de ce lieu. Et donc, il se met en colère. Et qu'est-ce qui se passe? La réaction est à la hauteur de l'offense. Vous voyez sur l'image là. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Alors c'est terrible. L'impureté dans le lieu saint. Et la réaction est immédiate. En fait, lui-même va sortir, parce qu'il comprend que c'est terminé. Parce que la lèpre, il y a plusieurs conséquences en Israël. Exclu du temple, exclu de tout ce qui est le culte, exclu de la ville, il est déchu de sa royauté. C'est fini pour lui, il le sait. C'est terminé, tout s'arrête là. Tout ça parce qu'il a voulu offrir des sacrifices à Dieu, et que le prêtre lui dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est nous. Tu ne peux pas cumuler ces mandats. Alors les autres peuples le faisaient, mais chez les juifs, ça ne se fait pas. Et on a vraiment cette sagesse des proverbes, hein, l'arrogance qui précède la chute. Il avait été humble par rapport à cette défaite militaire au début de sa vie. Et puis là, en fait, finalement, il a voulu prendre plus de place. Et puis il a été abaissé. Donc il est exclu de tout, comme je l'ai dit. Et ça nous rappelle un petit peu l'histoire avec Aaron et Myriam, où la lèpre apparaît parce qu'il conteste une autorité, là c'est l'autorité du prophète, et là il conteste l'autorité du sacrificateur, et poum, la lèpre qui éclate sur le front, c'est très symbolique, tout le monde le voit, il ne peut pas le cacher, et puis lui-même a compris qu'il est temps de partir. Et c'est terrible parce que ce roi tenait la route, c'était un bon roi, et tout s'écroule. Le sud a été humilié, il a redonné un blason, il a redonné un honneur, tout allait bien et puis tout s'écroule. Et là, on se dit, mais quelle déception dans le sud, quelle déception. Là, je vais juste poser la chose comme ça. On avait tant espéré dans ce roi, il avait redonné une force militaire, une économie, une agriculture prospère, il faisait des tas de choses. Et là, il finit enterré dans un champ isolé, même pas dans le caveau des rois. C'est humiliant. On se dit, waouh. Et le sud pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On voulait un roi qui règne sur la région. Il est déchu de sa royauté, il est humilié encore une fois, le sud est humilié. Et dans son désespoir, le peuple, il fait quoi? Il ne se tourne pas vers Dieu, il va consulter les morts et il va faire de la voyance. Alors on est vraiment dans l'heure sombre du sud. Et tout le monde est marqué par la chute de ce roi. Et je vous pose une question. À votre avis, qu'est-ce que Dieu pensait à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu avait en tête à ce moment-là? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Le roi est déchu, il n'y a plus de roi sur le royaume, les sacrificateurs sont en colère, voilà, tout, il y a tant d'espérance, tout s'écroule. Qu'est-ce que Dieu pensait? Est-ce qu'il était énervé? Est-ce qu'il était déçu? Est-ce qu'il s'est réveillé dans la nuit pour se dire « Ah, quelle andouille, cette ousia, là, faut tout reprendre. » Est-ce qu'il a pris des cachets pour se calmer? Qu'est-ce qu'il pensait? Les gens avaient vu ce roi, ce grand roi, finir dans un champ, isolé, exclu, déchu. Comme son père, d'ailleurs, qui sera dans le même cas. Et on se dit, qu'est-ce qu'il fait? Et les gens interprètent les silences. Dieu est en colère. Dieu est parti. Il nous a abandonnés. C'est fini, c'est terminé. Et cette année-là, l'année où Ouzia meurt, il y a quelqu'un qui va voir quelque chose. Il y a un prophète qui va voir quelque chose, qui va tout changer. Et vous connaissez bien ce prophète. Et je cite, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis, le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées !» Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors si j'avais dû écrire ce passage biblique moi-même, je l'aurais écrit ainsi. L'année de la mort du roi, je vis le roi. L'année de la mort du roi, je vis le roi des rois. Ce roi, il est saint. Il règne, il est digne. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il n'est pas dans un champ isolé. Elle n'est pas là, l'espérance. Et ça, c'est une leçon pour nous. Est-ce qu'on se focalise sur ce qu'on pense que Dieu ne fait pas et qu'en plus, il est en colère? Ou est-ce qu'on regarde au trône et à sa gloire? Et alors que le peuple regarde à cette déchéance, Ésaïe regarde au roi et il donne cette visibilité au peuple. Et Dieu va aller encore plus loin, parce que alors que l'ancien roi est déchu et que le nouveau roi est sur le trône, Dieu lui dit, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Tes ennemis se sont montrés menaçants parce que le roi est tombé, n'aie pas peur. Il se monte sur son trône, mais en plus il lui parle comme ça, pour le rassurer. Je crois que ça fait partie de ce qu'on a dit ce matin, Dieu qui veut rassurer, qui veut réapprivoiser, qui veut prendre le temps de reconnecter. Doucement, tendrement, sois tranquille, ne t'alarme pas, ça va aller. Et puis le roi lui dit, mais les ennemis vont nous attaquer, qu'est-ce qu'on va faire? Et lui dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous voyez comment il redresse la barque, il se monte sur son trône, il lui dit, n'aie pas peur, tes ennemis ne vont pas t'avoir, je suis là, je règne. En fait, c'est moi le roi. L'ennemi t'intimide, mais c'est du bluff. Je règne. Donc regarde au bon endroit, regarde-moi. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et Dieu va encore plus loin. Il a toujours quelque chose en plus à donner. Il va proposer au roi de lui donner un signe, cadeau, gratuit. C'est pas tous les jours que Dieu fait ça. Il se montre à Ésaïe, il lui dit, n'aie pas peur, t'inquiète, tes ennemis, je m'en charge, et tu peux me demander quelque chose. Et le roi, il dit, non, moi je ne tente pas le Seigneur. On va voir, on va interroger les morts et les voyants, mais on ne tente pas le Seigneur. Et là, Dieu lui répond, hein, je paraphrase, en fait, c'est parce que tu ne me demandes pas de l'aide que tu me tentes. Renverse ta pensée. C'est parce que tu ne me demandes pas de l'aide que tu me tentes, et ça, tu ne l'as pas encore compris. Les ennemis menacent, je suis l'Éternel des armées, donc je peux vous protéger. Et puis en plus, je suis vivant. C'est toutes les informations qu'il lui donne. Arrêtez d'aller voir les morts, arrêtez d'aller voir les voyants. Je suis vivant et je suis l'Éternel des armées. Je peux vous protéger. Le roi, il dit non, non, pas de signe. Alors Dieu insiste et il lui donne ce signe. Et là, je fais le lien avec le premier dimanche de l'Avent que nous vivons. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà l'annonce du Messie d'Israël dans ce contexte-là. L'année de la mort du roi, je vis le roi. Ce roi, il s'est montré sur son trône, il est saint, il est grand, il est puissant. Il dit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Tes ennemis, ils bluffent, ils ne t'auront pas. Et j'enverrai le Messie d'Israël pour vous sauver. Vous avez vu comment il renverse complètement la situation. Il renverse complètement tout ce qui est en train de se passer pour les sudistes. C'est extraordinaire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, le message, c'est celui-ci. Et j'en aurai terminé. Vous avez eu des bons et des mauvais rois. Vous avez eu des joies et des peines. Vous avez épuisé toutes vos cartes. Vous avez agité tous vos gris-gris. Vous êtes allé voir tous les voyants, tous les morts. Vous avez tout fait. Et vous êtes perdu. Complètement perdu. Alors combien de temps encore avant de vous tourner vers moi? C'est ça qu'il leur dit. Combien de temps encore? Combien de gris-gris encore? Combien de voyants encore avant de vous tourner vers moi? Combien de temps à vous épuiser, à vous stresser, à avoir peur de l'ennemi avant de vous tourner vers moi? Mais on ne va pas s'en sortir, donc le Messie d'Israël viendra et va régler tout ça, parce que là, un roi, deux rois, trois rois, tant de déceptions, ça va pas, on ne s'en sortira pas. Alors Dieu se monte sur son trône, il règne et il enverra son Messie. En annonçant Emmanuel, Dieu dit, j'arrive et je vais régler tout ça et surtout, je vais apporter une solution durable à votre problème. Ce sera une solution éternelle. On peut l'appeler en premier ou en dernier secours, mais c'est la seule alternative réelle. Parce que Dieu est même plus réel que nous, il est éternel. Je parlais à un officier cette semaine et qui me dit, vous savez, moi je vais... au culte, je vais à la messe, mais juste quand ça va pas, comme si c'était honteux. Et je lui dis, je lui réponds, je dis, mon commandant, existera-t-il un jour dans votre vie où vous parlerez à Dieu sans avoir besoin de lui? Y a-t-il un jour où vous le parlerez sans avoir besoin de lui? Il a dit, c'est vrai. On nous a fait croire qu'aller voir Dieu quand on a besoin, c'est presque un peu honteux, alors que Dieu dit, vous me tentez si vous ne me demandez pas de l'aide. Il renverse complètement la situation. Et en préparant ce message ce matin, il y avait une question qui résonnait en moi, une question qui est très simple, vraiment une question simple. Et si elle fait écho en vous, on priera par rapport à ça, juste rapidement. Cette question, c'était celle-ci. Par rapport à tout ce qu'on traverse, toutes nos perspectives, toutes nos aspirations, tous nos rêves, Dieu me disait, comme ça pour nous, est-ce que tu veux que je t'aide ? Question simple, hein. J'ai noté. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que je peux te donner un coup de main? Et ça rejoint les paroles qu'il y a eu ce matin par rapport à ce que Dieu nous donne, à ce que Dieu nous dit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que ne pas demander à Dieu de l'aide, c'est le tenter. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et si cette question résonne en vous, je vous invite à vous lever et on va prier. Je vous invite à vous joindre avec moi dans la prière et que vous pensiez à là où vous avez besoin d'aide et on va lui dire. Vous êtes d'accord? Je vous invite à vous lever. Seigneur, on veut répondre à cette question et par rapport aux domaines qui sont importants pour nous, on veut te dire oui, on veut que tu nous aides. On accepte ton aide dans notre travail, dans nos familles, à l'église, dans le témoignage, partout. On veut, Seigneur, que tu nous aides. C'est extraordinaire que, comme pour cette histoire, tu nous poses la question. Je vous donne un signe, je vous donne le Messie, il est là pour vous, à votre service. Et Seigneur, on y répond prophétiquement et on te dit oui, on veut que tu nous aides dans tous les domaines de notre vie, dans la santé. Si on traverse des choses difficiles au niveau du corps, au niveau de l'esprit, Seigneur, on veut que tu nous aides. Viens à notre secours. Et merci parce qu'en cette période de l'Avent, on se rappelle que oui, tu as annoncé Emmanuel dans un temps difficile de l'histoire de ton peuple, mais tu as tout réglé, tu as réglé tous les problèmes. Et on accepte maintenant, à nouveau, on veut renouveler cette aide que tu veux nous donner. Aide-nous, parce qu'on sait que quand tu règles un problème, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et que toute gloire te soit rendue, Père. Amen. J'en ai terminé.